on a à peu près 34 000 impacts par année sur le réseau mondial, ce qui représente à peu près 96 collisions par jour. Les aéronefs perdent entre 850 et 900 moteurs par année. Le record que nous avons eu, c'est une ingestion avec 6 millions d'euros de gaz sur un réacteur, simplement pour un pigeon radier.
Les podcasts d'impatience, c'est rts.ch/impatience.
Le mystère plane sur le dossier de ce jour. Mystère quant au titre que vous lui avez donné, Adrien Zerbini. Alors en trois mots, c'est l'aéroport des plumes.
Voilà, en trois mots, parce que on ne déplume pas l'aéroport de Genève. On cherche justement à éviter au maximum les relations trop physiques entre les avions et les oiseaux. Alors ça peut sembler anecdotique, mais à Genève Aéroport, 8 personnes travaillent dans cette prévention tout à fait originale que l'on appelle la prévention du péril animal.
Mais ça se passe pas uniquement à l'aéroport de Genève.
Alors ça n'est heureusement pas une originalité, parce que c'est très important pour la sécurité. Beaucoup de grands aéroports ont une unité de prévention de ce type. La spécificité de celui de Genève, c'est qu'il a très vite développé des stratégies douces et qu'aujourd'hui, le savoir-faire de Genève Aéroport s'exporte dans le monde entier. Vous allez le voir, pour que la vie soit harmonieuse entre les aéronefs et les volatiles, il faut bien connaître ces deux univers, il faut être passionné, comme l'est, ça tombe bien, Stéphane Pillet, qui est en charge de l'unité de prévention du péril animalier de Genève Aéroport.
Très rapidement, au début de l'aviation, les avions ont commencé à partager le même espace aérien en fait que les oiseaux. Donc très rapidement, on a eu des collisions. Donc des collisions d'abord avec les oiseaux, donc on parlait principalement de périls aviaires. Et par la suite, on s'est aperçu que il y avait des collisions sur les aéroports avec des mammifères ou des chiens ou des animaux domestiques. Donc on a commencé à parler de périls animaliers. Alors effectivement, on pense plutôt à l'aéronef, à son équipage et surtout aux passagers également qui, rappelons-le, voyagent dans le moyen de transport le plus sûr au monde. Mais évidemment, il faut des mesures et des processus pour garantir la sécurité de ces voyageurs.
Alors j'imagine que plus les avions vont vite, plus on monte dans l'histoire de l'aviation, plus ces risques sont grands. Cela dit, on a un historique de ce péril animalier ?
Alors, petite particularité, c'est très peu connu par le public, mais en fait, depuis 1908, on a une statistique au niveau international qui recense toutes les collisions animalières. Donc, c'est la plus vieille statistique de l'aviation dans le domaine des dégâts ou de la sécurité des aéronefs.
Et alors ?
Dans cette statistique, on recense la mort du premier pilote en 1912, un dénommé Carl Roger, qui avec son biplan a touché un goéland et s'est écrasé suite à la casse de son hélice.
Donc depuis ce moment-là, on cherche à prévenir le risque.
Alors évidemment, on met en place, et c'est une obligation par ailleurs au niveau international, on doit mettre en place sur chaque plateforme aéroportuaire un plan de mesure, et ce plan de mesure, je dirais, se décompose de deux manières. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle la prévention passive. Donc, on essaye de rendre le milieu aéroportuaire le moins favorable pour la faune. Ça ne veut pas dire qu'on va aller jouer contre l'environnement, mais on va travailler plutôt avec la nature plutôt que contre elle. Et puis, deuxième aspect, quand on n'arrive pas à tout régler par ce biais-là, on va mettre en place des mesures pour traiter le risque résiduel. Et à ce moment-là, on parlera de prévention active.
On ira voir tout ça sur le site, autour de la piste dans quelques minutes, Stéphane Pillet. Revenons à cet accident. Alors, on a parlé d'un accident en 1912. Depuis, vous nous disiez que ces statistiques étaient donc tenues à jour depuis 1908. Donc, on peut à peu près savoir à quoi correspond ce risque.
Alors, chaque collision est recensée, que ce soit par les aéroports ou par les compagnies aériennes. Tout ça rentre dans une base de données internationale. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'on a à peu près 34 000 impacts par année sur le réseau mondial. On parle bien de l'aviation civile. Donc, ce qui représente à peu près 96 collisions par jour sur le réseau mondial de l'aviation civile. Et parallèlement à ça, cette statistique découle évidemment d'autres chiffres, notamment un chiffre, je dirais, mécanique quelque part, où on sait qu'on a les aéronefs perdent entre 850 et 900 moteurs par année, soit avec des dégâts plus ou moins importants, soit avec des pertes totales de ces moteurs, donc ça coûte très très cher. Et le coût annuel pour les compagnies aériennes, et on parle bien uniquement de pièces, donc de mécanique, on ne parle pas du mécanicien qui va faire le travail et puis des annulations de vol, réaffréter des avions, etc. Donc uniquement en pièces mécaniques, c'est un peu plus d'1,1 milliard de dollars le coût de ces collisions sur les pièces aéronautiques.
Alors, ça nous fait donc presque 100 collisions par jour entre avions, vous m'arrêtez si j'ai dit une bêtise, aéronefs et des animaux. Bien sûr, toutes ces collisions ne sont pas tragiques.
Alors, fort heureusement, la plupart, je dirais le 90% ou le 90, ouais, enfin le 98% de ces collisions ne sont pas problématiques ou catastrophiques, heureusement. Malheureusement, il faut se rappeler que c'est quand même des morts, pas chaque année, mais il y a quand même de temps en temps des accidents un enchaînement qui fait qu'on arrive au crash. Alors, on se rappelle tous de ces images de cet avion Cameri sur l'Hudson. Alors voilà, une collision multiple sur les deux réacteurs qui a fait qu'en définitive, cet avion aurait aussi bien pu s'écraser sur des bâtiments en pleine ville de New York. Mais grâce à la bienveillance de l'équipage, en fait, cet avion a améri. Il y a eu que des blessés légers, mais ça aurait pu être une catastrophe. Mais heureusement, la plupart des collisions, c'est quelques dégâts ou même simplement quelquefois aucun dégât, fort heureusement. Mais ces dégâts ont un coût. Et c'est vrai qu'une collision, alors pour vous donner un chiffre, peut-être ici à Genève Aéroport, le record que nous avons eu, c'est une ingestion avec 6 millions d'euros de casse sur un réacteur, simplement pour un pigeon ramier.
Il y a un paradoxe quand même, Stéphane Pillet, c'est qu'un aéroport, c'est un endroit, alors vous l'avez dit, on fait de la prévention passive, on essaie d'éviter que les animaux, que la faune s'installe trop dans la zone, mais un aéroport, par définition, c'est un endroit qui est mis à banc, où il n'y a pas de piétons, il n'y a rien, donc en fait c'est quand même un endroit très attractif pour les oiseaux.
Alors effectivement, on parle souvent de la réserve naturelle de l'aéroport, mais c'est exactement ça. En fait, nous sommes dans une zone sécurisée, donc où le périmètre, l'accès aux prairies est très limité. Si on prend l'exemple de la plupart des aéroports européens, les prairies qui composent ces aéroports sont des prairies, en règle générale, des milieux naturels très riches, où on y retrouve tout le cortège floristique, faunistique, donc une chaîne alimentaire totale. Ça veut dire que des petits oiseaux vont pouvoir venir se nourrir de graines, d'insectes, ou bien alors des rapaces se nourrir de campagnols. Donc c'est des grandes surfaces, et ces surfaces, en définitive, il n'y a pas beaucoup de piétons. Et si on prend les zones protégées de la piste, les 90 mètres de part et d'autre de la piste, il n'y a personne qui peut pénétrer dans ces zones, sauf si, évidemment, on doit y intervenir pour une raison ou une autre. Mais à ce moment-là, on le fera hors trafic aérien, donc c'est vraiment très très rare qu'on y pénètre. Donc les oiseaux, ils sont très bien. N'importe quel petit mètre carré de terrain dans la nature aujourd'hui est colonisé par de nombreux promeneurs et des chiens. Donc le dérangement est fort et l'aéroport, pour ça, reste un havre de paix pour toute cette faune.
Stéphane Pillet, les avions se sont ces dernières années adaptés pour des mesures de bruit, pour moins déranger l'environnement, à décoller plus vite, plus rapidement. Il y en a de plus en plus sur l'aéroport de Genève comme un peu partout. Et il y a également, semble-t-il, de plus en plus d'oiseaux parce que l'agriculture est de plus en plus respectueuse. Donc en fait, pour vous, le problème, il ne fait qu'augmenter d'année en année.
Alors effectivement, non seulement le péril animalier augmente chaque année, c'est vrai que l'augmentation du trafic aérien est largement constaté. Donc on fait décoller et atterrir les avions plus vite pour limiter leur temps de présence sur les pistes d'atterrissage. Seule chose, qui dit des vitesses plus importantes lors d'une collision, dit des dégâts beaucoup plus sérieux. Et puis, en dehors de ça, toutes les mesures de protection qui ont été mises en place, en particulier pour la vie-faune, mais également pour d'autres espèces, font qu'on se retrouve avec un territoire de plus en plus colonisé par ces espèces. Également le fait que, pour l'exemple de Genève Aéroport, nous sommes un aéroport de ville. On a très peu de zones et de havres de paix pour la faune à l'extérieur de l'aéroport, donc ils viennent sur l'aéroport, donc on a aussi des concentrations plus élevées. Donc effectivement, chaque année, le risque augmente. On se dit chaque année qu'on est un peu meilleur, mais chaque année, on demande toujours un peu plus en termes d'effectifs, de matériel, etc., parce que on a ce risque qui continue d'augmenter.
Alors vous avez mentionné le fait que vous faites de la prévention, ça veut dire que l'aéroport, on va un petit peu faire de la promotion pour votre travail, mais l'aéroport de Genève est un peu pionnier dans le domaine de la prévention du péril animal.
Alors effectivement, dès les années 80, Genève Aéroport a mis en place une structure, a toujours pris ce travail très au sérieux. Mais la seule chose peut-être où on a un petit peu développé les choses, c'est qu'en fait on a mis en place des méthodologies et surtout l'idée était de partir toujours de la nature. On va pas travailler contre la nature mais avec la nature. Donc notre méthodologie de base, c'est vraiment d'analyser le milieu aéroportuaire, de suivre en permanence l'évolution de la faune, de la flore, enfin des milieux naturels, de ce qui se passe non seulement sur l'aéroport mais également à l'extérieur de l'aéroport. Et puis tous ces éléments-là font qu'on adapte nos procédures en fonction de certaines problématiques. Pour vous donner un exemple de problématique, ces dernières années, on a eu une explosion des nidifications de corbeaux freux à proximité de l'aéroport. Ce printemps, nous sommes allés effaroucher les corbeaux dans leur corbeautière. L'objectif n'était pas de détruire ces corbeaux, mais de les inciter en fait à aller nicher ailleurs. Et nous avions l'année dernière 74 nids dans cette corbeautière. Cette année, il y en avait plus que 5 qui étaient occupés au début de nos interventions au mois de février. Et en finalité, seul un couple de corneilles a niché dans cette corbeautière et tous ces corbeaux freux sont partis nicher ailleurs. Donc ils ne viennent plus en gagnage se nourrir sur l'aéroport. Et par ce biais-là, avec une mesure qu'on va appeler plus ou moins douce, en définitive, on a non seulement paré à la sécurité en protégeant les passagers, les aéronefs, leurs équipages, mais également en protégeant cette espèce.
Alors, il faut dire qu'effectivement, typiquement, vous parlez du corbeau freux, là, on est sur une espèce protégée. Donc, si vous avez une espèce protégée qui s'installe sur l'aéroport, ben, souci.
Alors, effectivement, souci. La seule chose, bon, pour certaines, évidemment, on les tolère et on va même bien les accepter. La seule chose, ce qu'il faut voir, c'est qu'on essaye toujours de travailler avec des méthodes d'effarouchement. Donc, on n'élimine aucune espèce sur l'aéroport. On a quelquefois quelques tirs de pigeons dans les hangars qu'on est obligé de faire parce qu'on ne peut pas faire autrement, ou quelques corneilles par année. Mais en dehors de ceci, on ne tue aucune espèce. On est vraiment là pour les effaroucher. Donc aussi pour les inciter à ne plus revenir, qu'elles s'en rappellent et puis qu'elles fassent passer ça de génération en génération. Et ça marche. On s'aperçoit que les oiseaux sédentaires, si je prends l'exemple de la buse variable, les oiseaux sédentaires à l'aéroport ont une appréhension du risque totalement différente que lorsqu'on a des oiseaux, par exemple en hiver, qui viennent du nord dans des contrées un tout petit peu plus chaudes ou moins froides, on va dire. Ben, en définitive, ces buses, c'est souvent là où on a des collisions parce qu'elles ne sont pas expérimentées au trafic aérien.
Ce que je propose, Stéphane Pied, c'est qu'on aille voir là, concrètement, sur le tarmac et autour, ce qui se passe ici à l'aéroport de Genève.
Pacemaker pour la Pater Rose.
Les podcasts d'Impatience. impatience, c'est rts.ch/impatience.
Adrien Zerbini, on poursuit notre découverte de l'unité PPA. Nous sommes à l'aéroport de Genève.
Oui, PPA comme prévention du péril animal ou du péril aviaire. Comment éviter les collisions entre les oiseaux et les avions? Alors, je vous propose maintenant de suivre sur le tarmac Stéphane Pillet. Stéphane Pillet, qui est en charge de l'unité de la PPA à l'aéroport de Genève. Nous partons donc du pied de la grande tour de contrôle, direction de la piste, direction donc des avions et des oiseaux. On arrive sur la voiture de l'unité PPA, prévention du péril animalier. Gilet fluo.
Identifié, et d'ailleurs à tel point que les oiseaux nous reconnaissent uniquement à l'équipement et à l'uniforme, et en particulier avec les corvidés, c'est assez saisissant.
Les fameux corvidés, quoi, les fameux corbeaux et corneilles, qui reconnaissent le logo du...
Alors, pour ainsi dire le logo, non, simplement la couleur, mais c'est également pour ça que notre véhicule de prévention du péril animalier, donc le véhicule d'intervention, est blanc, alors que la plupart des véhicules, normalement, qui travaillent au niveau des opérations, devraient être jaunes, selon les normes internationales. Mais à 800 ou 900 mètres, les corvidés reconnaissent le véhicule et s'envolent de par eux-mêmes. Donc pour limiter le risque, en fait, pour que chaque véhicule jaune ne les effarouche pas, on a un véhicule d'intervention qui est blanc.
Parce que vous ne voulez pas les effaroucher systématiquement?
Non, parce que le problème, c'est que si tous les véhicules jaunes effarouchaient les oiseaux, on en aurait qui se disperseraient de tous les côtés, puis on augmenterait le risque par ce biais-là.
Il faut vraiment penser à tout. Donc là, la radio qui est là, c'est la radio générale de la sécurité de l'aéroport.
Alors en fait, on est sur la fréquence tour, comme ça on entend les avions qui atterrissent et qui décollent. Pour nous, c'est important. Alors non seulement si on doit pénétrer en piste, comme ça on peut suivre en direct ce qui se passe, mais également on peut anticiper. Quelquefois, on entend justement un pilote qui va nous annoncer un bird strike. Le contrôleur va nous rappeler sur une autre fréquence, mais on peut déjà se rendre le plus rapidement possible sur le site.
Bird strike, collision entre oiseaux.
Voilà, collision aviaire, effectivement.
Donc là, vous enclenchez le gyrophare, ça veut dire qu'on va traverser une zone particulière.
Voilà, alors là, on est sur le tarmac, donc on est au milieu des avions qui vont s'aligner pour décoller. Donc évidemment qu'ici, il faut non seulement être autorisé à y être, mais en plus de ça, il faut s'identifier correctement. Et on voit par exemple ici à droite une corneille isolée toute seule qui est suffisamment loin de la piste, donc les collègues ne l'ont pas effarouchée aujourd'hui.
Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant, j'imagine, c'est comment vous faites, c'est-à-dire ces techniques d'effarouchement.
Alors exactement, donc on a différents moyens d'effarouchement, on a des moyens visuels, des moyens pyrotechniques. On a la pression humaine, sortir du véhicule, taper dans les mains, faire le grand rapace. On a la technique dite du parapluie. Pour tous ceux qui ont vu une fois ou l'autre Indiana Jones dans un fameux film sortir son parapluie et faire se lever des oiseaux qui vont se percuter contre un avion. Mais c'est une technique qu'on utilise parce que, contrairement peut-être à la pyrotechnie ou aux aspects sonores, que les oiseaux pourront s'habituer ou s'accoutumer, en définitive, à la pression humaine, les oiseaux ne vont jamais s'accoutumer.
Donc là, il y a un avion qui est justement qui est en attente là pour décoller, et il y en a un autre qui arrive pour atterrir. Donc à chaque moment clé comme ça, atterrissage, décollage, vous êtes, il y a toujours quelqu'un qui est sur le qui-vive.
Alors du lever du jour à la tombée de la nuit, donc on a toujours un véhicule qui tourne avec un collaborateur qui observe les oiseaux, qui non seulement les observe mais également les recense, parce que pour nous c'est important l'aspect statistique des choses pour voir l'évolution de la faune sur l'aéroport. Et du matin au soir, on intervient au besoin, soit à la demande ou au besoin de ce que l'agent péril animalier va voir en fait de la situation du terrain.
Et là, devant nous, une prairie printanière tout à fait charmante, avec toutes sortes de fleurs bleues, jaunes, donc une prairie biodiversifiée.
Alors, on a une magnifique biodiversité sur l'aéroport, des prairies avec plus de 210 espèces recensées. C'est un des hauts lieux du canton au niveau botanique, puisque dans l'Atlas botanique du canton de Genève, c'est un des sites les plus riches. Et c'est notamment le plus grand site prioritaire en matière de protection de la flore, du canton de Genève, puisqu'en fait, nous avons 50 hectares qui composent ce site prioritaire qu'est l'aéroport.
Avec des espèces absolument uniques.
Alors avec des espèces, on a une espèce notamment unique pour le canton, mais on a également de nombreuses espèces rares et certaines où on n'a que quelques stations sur le canton. On a par exemple du rosier de France, le Rosa gallica, ou toute une série d'espèces d'orchidées notamment. Actuellement, quelques petits orchis moriaux sont en fleurs, et puis plus tard, on va avoir les orchis pyramidaux notamment.
Falco 1 de Héron.
Est-ce que tu pourrais nous rejoindre en 05? Il y a pas mal d'oiseaux, s'il te plaît.
En 05, Héron.
Alors voilà, là, je viens d'appeler notre collègue qui est de service parce qu'on voit qu'on a pas mal de corvidés puisque, on a des installations où on est obligé de faire un petit peu de fauche. Et là, ça a été fauché récemment, c'est-à-dire hier. Et puis, tout ça fait qu'on a une certaine... des petits insectes notamment qui sortent du sol et puis qui sont capturés par les corbeaux freux et par les corneilles. Donc elle va simplement venir pour les effaroucher.
Et ces appareils qu'on voit, on voit des sortes d'appareils cubiques avec un panneau solaire sur le côté et des petits haut-parleurs, comment on appelle ça d'ailleurs, ces petits gigaphones comme ça. Ça, ce sont des appareils d'effarouchement ?
Alors tout à fait, nous avons une trentaine d'appareils le long de la piste béton et nous avons également deux de ces appareils qui sont amovibles sur des remorques qui sont posés à 90 mètres de la ligne centrale de la piste parce que dans cette zone de 90 mètres on ne peut rien mettre d'autre et nous diffusons au travers de ces boîtes à bruit, si on peut appeler ça comme ça, de leur nom technique, ce sont des FBTech, donc Effaroucheur Bird Technology. Et en fait, nous diffusons trois types de sons, soit des bruitages ou des espèces de sons d'alarme, soit des cris de détresse de prédateurs, par exemple l'autour des palombes ou l'épervier, ou des cris de détresse de certaines espèces, soit des cris de détresse naturels, soit des cris de détresse synthétiques.
Et ça, c'est pas du tout automatique, c'est-à-dire c'est manuellement qu'on se dit « oulala, il y a tel type de problème, on va diffuser tel type de son ».
Effectivement, en fonction de l'espèce en présence, on diffuse le bon son au bon endroit et au bon moment. Voilà, donc les corneilles se soulèvent juste à l'approche du véhicule blanc qui est à 500 mètres maintenant. Et voilà, elles déclenchent donc les effaroucheurs. Et on voit tout de suite les oiseaux qui s'élèvent. Et puis on a juste eu un mouvement d'avion avant, donc elle est vraiment intervenue entre deux mouvements, ce qui est vraiment important.
Ça veut dire que c'est depuis la voiture qu'elle a lancé le bruit de l'effaroucheur.
Exactement, donc elle a une télécommande qui peut aller d'un bout à l'autre de la piste. Et en fait, elle a enclenché le générateur depuis son véhicule.
Voilà la voiture, Bird Wildlife Control. Bonjour, je suis Adrien de la Radio Suisse Romande.
Bonjour. Chloé.
Vous êtes alors ?
Chloé.
Et alors comment ça se passe aujourd'hui là ?
Aujourd'hui c'est assez calme, on a quelques corvidés, pas énormément, quelques rapaces aussi, et des hirondelles qui pointent leur nez.
Donc qu'est-ce que c'est que ce bruitage ?
L'autour des palombes, un fameux rapace. Donc on l'utilise souvent, pas contre l'autour des palombes parce qu'on n'en a pas sur le terrain, mais par contre c'est un oiseau qui se nourrit d'autres petits oiseaux. Donc ça marche bien sur les petits oiseaux, ils ont peur, ils croient qu'il justement il y a un prédateur dans les parages. Donc ça leur donne un petit coup d'accélération.
Moi j'en ai entendu un une fois où j'avais vraiment l'impression qu'on égorgeait des cochons. Donc je ne sais pas si vous avez des cochons qu'on égorge.
J'ai peut-être ça en stock, oui.
Je ne comprends pas très bien le sens que ça peut avoir pour effrayer des oiseaux.
C'est peut-être ça.
Alors c'est quoi ça ?
C'est pas un cochon qu'on égorge, non, c'est un héron cendré.
Ah d'accord, j'avais pas fait attention qu'il faisait un bruit pareil, le héron cendré.
Seulement en cri de détresse.
D'accord, alors là, pour voir l'intérieur du véhicule, donc on voit effectivement une belle paire de jumelles, des lunettes.
Indispensable pour les agents périls animaliers.
Voilà, l'outil indispensable, j'imagine. Et puis, il y a un meuble avec toutes sortes de tiroirs. Et il y a effectivement des armes, on dirait des armes à feu. Ce sont des pistolets.
Tout à fait.
Donc, vous êtes armé. Et là, vous avez ouvert un tiroir avec des munitions.
Oui, il y a différents types de munitions. On a des petites fusées comme ça.
Donc la munition verte, qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est une crépitante.
Donc ça sert à ?
Ça sert à effaroucher, vous verrez, ça parle de... Donc là, sur le groupe de corvidés qui se trouve là, on va intervenir et on va justement tirer cette munition pour enlever ce groupe-là.
Donc ce bruit qui est assez peu rassurant pour nous semble avoir bien effrayé les corvidés eux-mêmes.
Oui, ils ont l'habitude, ils nous connaissent.
Donc ils partent un peu pour... C'est un peu un jeu, là. Ils partent pour vous faire plaisir, ils vont revenir quand ils en auront envie.
Exactement, c'est le jeu du chat et de la souris.
Donc là, vous avez un pistolet qui est un peu plus inquiétant.
C'est comme un lanceur de fusée de détresse, comme on utilise sur les bateaux. Ça ressemble à peu près à ça.
Donc, explosion, nuage blanc, et ça effraie surtout.
Ça effraie pas mal les hérons. Le pâle cochon qui criait avant. Justement, ça marche bien sur les hérons. Aussi sur les autres espèces, mais on va l'utiliser pour du héron, du rapace ou des choses comme ça.
Elle a explosé pas loin du sol, là. Et là, alors, ce type de bruit-là.
Ça, on va l'utiliser. Ben, on a une portée qui est plus importante que les autres cartouches qu'on a. Donc, on va aussi l'utiliser pour du héron qui est au sol pour le faire décoller. Ou alors, ça marche bien aussi quand on a un groupe de Milan qui tourne, une colonne qui se forme. Ça, on la tire bien à la verticale et ça monte très haut et ça pète juste dans la colonne et ça disperse le groupe.
Et là, c'est la saison. Les Milans sont revenus aussi depuis un petit moment. Là, il y en a pas mal autour de l'aéroport.
Oui, on en a pas mal. Ils sont revenus en mi-mars. Donc là, ces deux derniers jours, c'est assez calme. Mais il y a d'autres jours où ils viennent en grande force. Et après, il y aura les petits qui vont sortir du nid, qui sont inexpérimentés. Donc là, ça représente... un peu plus de risques pour les avions. Enfin, ils ne savent pas trop encore naviguer. Pas les avions, mais les Milans.
L'émancipation des jeunes, notamment les rapaces, ça, c'est une des grosses problématiques. Parce qu'en définitive, les parents apprennent à ces jeunes oiseaux à voler. Et puis, ils sont nettement moins attentifs au trafic aérien. Donc, les jeunes sont moins attentifs, mais les adultes également, dans cette phase d'apprentissage. Donc, en fait, c'est des périodes, si on prend le faucon cresserelle, par exemple, août-septembre, on a pas mal de collisions avec des jeunes oiseaux.
Mais on a découvert un monde, là, Adrien Zerbini. Impressionnant. On va remercier en tout cas vos interlocuteurs. Vous êtes allés les rencontrer sur le terrain. C'était Stéphane Pillet. Il est en charge de l'unité de prévention du péril animalier de Genève Aéroport. Merci également à Chloé Proelox, agente de la prévention également du péril animalier à Genève Aéroport.
Rattrapez Impatience sur rts.ch/impatience. Impatience.